Vous écoutez France Culture.
Et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert, avec Fabien Gosset, Alexandre James et Pascal Bresse à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Jeanne-Marie Roux, Mathilde Unger, Avril Ventura et Adèle Van Rett. Et c'est le début, ce lundi, de la première des deux semaines que les nouveaux chemins de la connaissance consacreront à l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Pour la troisième année, les nouveaux chemins vous proposent d'entendre toute la semaine des professeurs de terminale présenter un sujet devant leurs élèves, histoire de démystifier une épreuve que certains se représentent comme une montagne à gravir. Dans un instant, Pierre Vignan, qui enseigne la philosophie au lycée Charlie Chaplin de Décines, planchera pour vous et devant quelques-uns de ses élèves, trois d'entre eux, sur la question de savoir si la politique doit faire le bonheur des citoyens. Demain mardi, Jean-Pierre Dramizino, qui enseigne en terminale L au lycée Robert Doisneau de Vaux-en-Velin, se demandera si toutes les cultures se valent. Mercredi, c'est Patricia Lorca du lycée Saint-Just de Lyon qui tentera de répondre à la question redoutable de savoir s'il y a quelque chose que le langage ne puisse dire. Jeudi, Isabelle Ledoux, également professeure au lycée Saint-Just, se demandera s'il est possible de vouloir le bien sans le faire. Et vendredi enfin, Marc Romini du lycée Marseille-Vert à Marseille se demandera si et à quelles conditions on peut dire d'un désir qu'il est anormal. Une semaine un peu particulière donc et passionnante, à l'attention des futurs bacheliers, qu'ils soient en seconde, en première ou bien déjà dans le stress. Et c'est à cet égard un dispositif un peu particulier que nous avons mis en place cette semaine, puisqu'en lieu et place du journal des nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Rett nous accompagnera tout le temps de l'émission pour interroger trois élèves sur la façon dont ils auraient eux-mêmes traité le sujet qui nous occupe. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Oui, alors avant de donner la parole au professeur, on va essayer de voir comment un sujet de dissertation de philosophie, un sujet susceptible de tomber le jour du bac en juin, est reçu par des élèves de terminale à ce moment de l'année, alors qu'ils n'ont pas forcément étudié le thème en question avant aujourd'hui. Donc là, on est début mars et le sujet à traiter, c'est, vous l'avez dit, la politique doit-elle faire le bonheur des citoyens ? Et autour de la table, avec nous, pour réfléchir à ce sujet, et on a Charlotte Fayard, Maxime Etienne et Romain Philippe. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors Charlotte Fayard, si vous êtes le jour du bac, vous découvrez ce sujet. Je sais que pour l'instant, vous n'avez pas encore traité le thème de la politique. Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Donc vous découvrez ce sujet, la politique doit-elle faire le bonheur des citoyens ? Qu'est-ce que vous vous dites spontanément ? Quelle est la première réponse qui vous vient à l'esprit ?
Spontanément, je me dis que oui, à la base, c'est pour faire le bonheur des citoyens, c'est pour permettre une certaine homogénéisation au niveau de la société. Mais après, si on regarde de plus près, on voit qu'il y a eu la dictature, tous les totalitarismes. Donc, en privant la liberté individuelle, on peut pas permettre le bonheur des citoyens.
Donc, voilà. Donc vous avez déjà une thèse et une antithèse, si je vous comprends bien, dès le début.
Oui, oui.
Maxime Etienne, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? Vous lisez ce sujet, la politique doit-elle faire le bonheur des citoyens ?
Pour moi, la politique, elle a commencé à partir après la Révolution française. Et le tiers d'État n'était pas forcément heureux. Il était écrasé sous la noblesse et le clergé, donc il a voulu faire une révolution pour gérer lui-même l'État, quoi. Et donc pour être plus heureux.
Donc vous partiriez, c'est un exemple qui vous vient en premier à l'esprit.
Pour moi, oui, la politique doit conduire au bonheur des citoyens.
Très bien. Et Romain Philippe ?
Donc moi, ce sujet me paraît clairement en deux parties, je pense. Tout d'abord, je remarque que la politique, malgré tout, elle est quand même là pour faire un certain bonheur. Surtout si on s'en réfère à Éthique et Nicomaque. Dans lequel on voit, donc je l'ai parcouru plutôt rapidement, mais
donc l'éthique et Nicomaque d'Aristote,
voilà, et on voit donc en gros que on ne peut pas être heureux, l'homme en tant qu'animal ne peut pas être heureux sans vivre en société, d'où l'intérêt de la politique. Donc sur ce plan-là, elle permet de rendre l'homme heureux, mais sur une autre façade, la politique c'est contradictoire avec le bonheur, puisque le bonheur c'est personnel et vu par chacun.
Oui, donc il y a déjà des distinctions conceptuelles qui apparaissent dès le début, là, donc, sur la définition du bonheur et la politique.
Et donc, la seule politique, je dirais, qui soit à même de s'initier assez dans la vie privée d'un individu pour pouvoir éventuellement régir le bonheur, c'est une politique totalitariste. Et on sait très bien tous qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être heureux.
Professeur Pierre Vignan, qu'est-ce que vous pensez de ces réactions ? Est-ce que selon vous, ces trois élèves, qui d'ailleurs commenceraient leur dissertation de manière complètement différente, si je les ai bien compris, est-ce que pour vous, ces entrées en matière sont bonnes, sont légitimes ? Ou est-ce que d'après vous, on sent qu'il faudrait que ces élèves n'ont pas forcément encore étudié le thème de politique et donc du coup seraient démunis face à un tel sujet ? Moi, je n'ai pas l'impression, mais je vous laisse juger.
Ce sont des premières réactions qui sont déjà très riches. Bon, on ne peut peut-être pas déjà savoir quel serait exactement le début de leur dissertation et tout le cheminement à partir de ces premières réactions. Ce qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est d'abord qu'ils mettent en avant quand même cette aspiration au bonheur qui, je crois, est quand même effectivement présente chez tout homme et peut-être tout particulièrement dans la modernité. Et puis, certains semblent se préoccuper aussi déjà des dangers d'une politique qui voudrait à toute force faire le bonheur des citoyens, ce qui me paraît effectivement être un aspect important du problème. Voilà ce que m'inspire immédiatement leur première...
On va construire ensemble une problématique et un plan éventuellement détaillé avec vous, hein, Pierre Vignan. Pour en rester un tout petit peu à ce point de départ que proposent donc vos trois élèves, c'est intéressant de voir que l'une plus exactement, partait d'un point de vue historique, se proposait un exemple historique au commencement. Le second proposait un exemple déjà... problématique, hein, c'est-à-dire enfin une question dans quelle mesure politique et bonheur sont compatibles. Et puis alors on avait carrément un troisième qui avait déjà l'esquisse d'un plan qu'il prévoyait en deux parties. De façon générale, quand on est en face d'un sujet de dissertation, la toute première réaction, c'est-à-dire en amont hein, même de la construction de la problématique, qui est vraiment l'essentiel, enfin qui est le cœur, le fil conducteur du travail, en amont de cette construction pour y parvenir... réaction historique, problématique, ou alors avoir déjà un plan en tête, quelle vous semble être la meilleure façon d'appréhender le sujet ?
On a souvent des réactions immédiates qui peuvent être tout à fait déjà intéressantes, ou parfois il faut se méfier un peu des réactions immédiates. Et c'est pourquoi il est souvent bon ensuite d'analyser de façon un peu plus systématique le sujet. Et ça permet de voir justement un peu ce qu'il en était de la valeur des réactions immédiates. Mais ces réactions immédiates, il faut souvent de toute façon les avoir et les noter de façon à ne pas en être pollué non plus. Car des fois, il y a des idées qui s'imposent assez vite et si on les refoule immédiatement, elles peuvent d'autant plus orienter les choses.
On a présenté comme un problème au début de cette émission le fait que les élèves qui venaient réagir donc à ce sujet n'avaient pas eux-mêmes déjà travaillé sur cette question. Est-ce que c'est vraiment un handicap ? Est-ce qu'ils ne courent pas, s'ils ont travaillé sur ce sujet, le risque de réagir en se demandant tout de suite « Ah tiens, qu'est-ce que je sais sur ce sujet ?» et finalement à mobiliser des connaissances avant de construire un problème.
Oui, c'est tout à fait le danger. Et on est parfois très déçu lorsqu'on leur demande de travailler sur un sujet qu'on a déjà longuement travaillé et étudié avec eux en amont. Et souvent, ils sont alors prisonniers de la problématique du cours. Donc il est important pour eux d'avoir tout de même des connaissances. Là, ils ont d'ailleurs déjà manifesté un certain nombre de connaissances plus historiques ou plus philosophiques. Mais effectivement, l'intérêt d'un sujet qui n'a pas été trop préparé à l'avance, c'est de les amener plus volontiers à réfléchir au sujet en lui-même.
Et à sa singularité d'ailleurs.
Et à essayer de trouver effectivement le problème hein, du sujet plutôt que de retrouver à toute force telle problématique de tel cours précédent.
Alors allons-y, élève Vignan, vous qui avez la culture du professeur et la candeur de l'élève, comment est-ce que vous réagiriez, puisqu'après tout le principe de ces émissions c'est aussi de soumettre ou d'infliger aux professeurs les sujets qu'ils imposent à leurs élèves. Comment vous-même réagiriez devant un tel sujet et comment construire une problématique ?
Donc, je partirais effectivement d'une analyse des termes. Et je partirais du premier d'entre eux, hein, et la politique, et qu'on pourrait peut-être définir comme étant l'art du gouvernement des sociétés humaines. Bon, un terme d'ailleurs qui vient du grec polis, la cité antique. Et on retrouve cette notion de cité dans une autre notion du sujet. Les citoyens, qui effectivement dans l'Antiquité sont ceux qui sont habilités à jouir du droit de cité. Aujourd'hui, les citoyens sont souvent les membres d'un État-nation, hein, sont les individus comme personnes civiques et qui justement ont les droits et les devoirs des nationaux. Et souvent, le citoyen... Dans la modernité, au départ, c'était d'abord celui qui appartient à une république, mais le terme est employé souvent plus largement.
Pardonnez-moi, juste, on reste sur le sujet, mais toute petite parenthèse, qu'est-ce que vous désignez par modernité, Pierre Vignan ?
Alors, par modernité, je désignerais tout de même par opposition aux anciens. C'est vrai qu'en philosophie politique, cette opposition, même si on peut la relativiser, est souvent fondatrice, hein, fondamentale. Donc, c'est à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Bon, du point de vue de la pensée, ça commence un peu auparavant avec des philosophes du droit naturel. Et du point de vue peut-être plus historique, c'est peut-être à la fois l'indépendance américaine et puis la Révolution française 1789. Et souvent, donc, on a cette opposition un petit peu en tête dans les sujets de philosophie politique.
Maxime Étienne, c'est ça, c'est votre nom, hein, faisait partir tout à l'heure la politique de la Révolution française. Mmh. Donc, il fait partir la politique du lieu, enfin, du lieu historique d'où faites partir la modernité, vous, Pierre Vignan.
Oui, tout à fait.
On sent que c'est votre élève. Mais donc, allons vers la problématique. Hein.
Oui, donc... Est-ce qu'elle doit, cette politique, faire le bonheur des citoyens ? Donc on a quand même le terme « devoir », hein, qui est assez fort. Hein. Est-ce qu'elle le doit peut-être pour obtenir cet assentiment des citoyens sans lequel aucune politique ne pourrait perdurer ? Est-ce que c'est même un devoir inconditionné, absolu ? Donc est-ce qu'elle doit faire le bonheur, hein ? Le bonheur, voilà un terme aussi qui est intéressant à analyser. C'est quelque chose qui est compris comme un état de conscience pleinement satisfaite. Donc sans doute quelque chose qui a une certaine stabilité, qui a une certaine durée, qui n'est pas une simple joie ou gaieté éphémère. En même temps, le bonheur n'est pas sans doute quelque chose qui n'est pas accessible à l'homme ordinaire. On pourrait peut-être de cette façon distinguer bonheur et félicité ou béatitude. Qui serait peut-être un bonheur réservé à un éventuel sage ou saint. Alors, est-ce que la politique, hein, l'art du gouvernement, la manière aussi de gouverner, doit faire, hein, le bonheur des citoyens ? Évidemment, on peut penser que c'est une aspiration très forte, on le disait il y a un instant, des individus, et peut-être tout particulièrement dans la modernité. Chaque individu espère et cherche le bonheur. On peut alors penser, comme plusieurs des élèves, que les citoyens attendent de la politique qu'elle fasse leur bonheur, que c'est à cette fin qu'ils l'acceptent. Pourtant, la politique est-elle véritablement en mesure d'octroyer le bonheur aux citoyens, de satisfaire toutes leurs attentes et aspirations ? Imposer à la politique un tel devoir n'est-il pas dangereux pour les libertés publiques ?
Ça, c'était la question que posait Charlotte. J'ai oublié votre nom, pardonnez-moi.
Fayard.
Charlotte
Tout
Fayard.
Tout à fait, oui.
C'est-à-dire qui sous-entendait dans la réponse qu'elle proposait assez rapidement et pertinemment, donc, hein, à vous entendre, un écart entre le fait d'imposer un bonheur à une collectivité et le fait que finalement, étant donné que chaque bonheur est individuel et que nous n'avons pas, ni vous ni moi, enfin nous sommes six autour de cette table, nous n'avons pas la même représentation du bonheur, on ne se fait pas la même idée du bonheur pour chacun. Il y aurait quelque chose de fatalement coercitif, contraignant dans le fait d'imposer un bonheur général, ce serait forcément aux dépens des libertés de certains.
Ça me paraît tout à fait être au cœur du problème du sujet. Et effectivement, on peut craindre que la politique, si on lui impose le devoir de faire le bonheur, cherche à imposer un bonheur uniforme, réducteur, et finalement aussi peut-être le fasse par des moyens qui soient dangereux pour les libertés.
En d'autres termes, si la politique fait le bonheur des citoyens, comment le ferait-elle sans le faire aux dépens des libertés individuelles ?
Oui, je pense que c'est assez au cœur du sujet sur lequel nous réfléchissons.
Une question pratique, Pierre Vignan. Quand vous faites quand vous corrigez une dissertation ou quand vous invitez vos élèves donc à faire une dissertation, est-ce que vous les invitez à annoncer le plan, maintenant qu'on a la problématique, à annoncer le plan dans l'introduction, quitte à se répéter ensuite, pour bien tenir la main du correcteur, hein, finalement, leur montrer que véritablement il y a un développement, ou bien est-ce que c'est superflu à partir du moment où la problématique est clairement formulée, énoncée Vous êtes sur quelle ligne? Parce qu'il y a vraiment deux écoles, là, pour le coup.
Moi, je leur dis quelque chose d'assez modéré. Hein. Je leur dis effectivement que si la problématique est bien explicite, si elle laisse déjà clairement entrevoir les différentes thèses qui seront développées et dans quel ordre dans le développement, à ce moment-là, une annonce de plan n'est pas nécessaire, serait redondante, lourde. Mais je leur dis qu'en cas de doute, s'ils craignent que le lecteur puisse, à la lecture de leur problématique, ne pas savoir exactement suffisamment ce que sera leur plan, leur point de départ, leur fil directeur, alors il peut être bon tout de même de faire une annonce du plan un peu plus précise, un peu plus explicite.
Donc pas de dogme à cet égard.
Ça, non, pas de dogme.
C'est pas rédhibitoire d'annoncer le plan, c'est pas criminel de ne pas le faire.
Tout à fait.
Comment faire le bonheur des citoyens sans l'imposer ? Comment imposer le bonheur sans le faire aux dépens des libertés ? Quelle première partie pour un tel sujet, Pierre Vignan ?
Je leur conseille de faire, hein, dans la mesure où je vais plutôt aller vers l'idée qu'il ne faut pas imposer une obligation à la politique de faire le bonheur, je commence par essayer tout de même de défendre la thèse que la politique doit imposer le bonheur.
Donc par donner sa chance à la thèse que vous allez éventuellement déconstruire ensuite.
Tout à fait. Il faut essayer effectivement d'éviter, dans cette première partie où on développe les idées qui ne correspondent pas à notre conviction, que ce soit tout de même une vraie partie, hein, que ce soit si possible pas juste un enchaînement de préjugés un peu grossiers qu'il serait peut-être trop facile de combattre ensuite.
Et sur la construction des parties elles-mêmes, est-ce qu'un élève doit, lister les arguments en faveur d'une thèse, ou bien est-ce qu'il doit les ordonner ? Est-ce qu'au fond, le catalogue des arguments en faveur d'une thèse suffit, ou bien est-ce qu'il faut manifester une progression qui justifie le passage à la partie d'après ? C'est une question piège, hein. Enfin, pas piège, c'est une question qui contient sa réponse, mais allez-y.
Oui. Il est important effectivement qu'au départ, il laisse venir les idées assez spontanément, et que dans un deuxième temps, ils essaient de les hiérarchiser afin d'avoir une progression qui soit la meilleure possible. Le plus important, bien sûr, est que le tout soit cohérent. Mais si on peut aussi avoir le sentiment que chaque partie progresse de plus en plus vers une thèse qu'elle assume, c'est l'idéal.
Comment faites-vous, vous ?
Comme je l'ai dit et comme je leur demande de faire, hein, c'est-à-dire que, en principe...
Non, mais sur ce sujet, je veux dire...
Ah, d'accord.
Oui, sur ce sujet. Non, il faut qu'on s'occupe du sujet.
Là, je suis parti de l'idée, justement, de cette aspiration forte de tout homme pour le bonheur et peut-être tout particulièrement dans la modernité. Cette modernité, finalement, elle a vu le développement de ce qu'on appelle l'individualisme. Donc, on a reconnu de plus en plus à l'individu en tant que tel une valeur. On attend finalement peut-être de moins en moins de lui qu'il se sacrifie au collectif, à la société. Et donc, le bonheur individuel devient une revendication forte. Et il me semble que cette revendication croît constamment à partir effectivement de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et que dans ce qu'on appelle parfois aujourd'hui la modernité seconde ou réfléchie, cette revendication est toujours très présente, peut-être plus que jamais. Elle est celle peut-être d'individus toujours plus nombreux. Hein. Les femmes, par exemple, peut-être davantage qu'après la Révolution française. Les minorités diverses et variées, chacun voudrait être reconnu et obtenir le bonheur qu'elle recherche.
Mais est-ce que cette revendication, Pierre Vignon, n'est pas contradictoire ? Au sens où chaque individu est fondé à réclamer à la chose publique, enfin à la politique plus exactement, d'assurer son bonheur, de garantir son bonheur, et en même temps fondé à faire valoir un bonheur qui n'est pas celui de son voisin. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le fait de demander à la politique de garantir le bonheur, tout en lui demandant de garantir un bonheur qui n'est pas celui du voisin ?
Oui,
comme si la loi n'était que la même pour moi-même, en fait.
Oui, tout à fait. C'est un petit peu la difficulté. Et cette difficulté, finalement, elle est réglée plus ou moins dans les théories politiques modernes. Et en même temps, probablement, que dans la réalité politique, on a trouvé des solutions aussi qui sont différentes. On peut penser d'une certaine façon que dans la théorie du contrat social, on essaie de trouver une solution en partie à ce problème. Alors si on peut nommer par exemple les deux plus célèbres théoriciens du contrat, Hobbes et Rousseau, ils ont une vision bien sûr l'un et l'autre différente et de l'état de nature et de ce que doit être la société civile et même le contrat social sur lequel repose cette société civile. Mais d'une certaine façon, pour l'un comme pour l'autre, il s'agit d'échapper à une situation qui est devenue, on peut dire, malheureuse. Chez Hobbes définit donc cet état de nature comme étant la guerre de tous contre tous. Et de fait, les individus qui se méfient les uns des autres, qui recherchent la gloire, sont toujours prêts à se faire la guerre, à attaquer l'autre pour ne pas en être la victime. Et c'est lorsque cette situation leur paraît vraiment insupportable, les satisfait plus du tout, qu'ils sont alors prêts à entrer dans la société civile, à consentir donc à entrer dans la société civile. Et alors, Hobbes règle d'une certaine façon notre problème. Lui, d'une certaine façon, en attendant finalement du souverain qu'il représente le peuple politiquement. Et donc, finalement, c'est lui qui parle pour les citoyens, pour le peuple. Et son autorité est très grande. Mais d'une autre façon, par contre, chez Hobbes, on trouve pour les citoyens une possibilité, grâce à la sécurité accordée par le Léviathan, de chercher leur bonheur personnel dans leurs affaires, dans leur vie personnelle, familiale et autres.
De sorte qu'il y a, alors pour revenir sur l'opposition que vous faites valoir entre Hobbes et Rousseau, il y a des textes, hein, pour ça. Enfin, c'est surtout Rousseau qui reproche à Hobbes, et pour cause. L'un a connu l'autre, si j'ose dire. Rousseau reproche à Hobbes de parler de l'état de nature comme de l'état de guerre, de chacun contre chacun, où l'homme est un loup pour l'homme. Et Rousseau dit de Hobbes qu'il confond l'état de nature avec l'état de société. Puisque du point de vue de Rousseau, l'homme ne devient méchant qu'en entrant dans la société. De sorte que ce que fait Hobbes aux yeux de Rousseau, c'est que, croyant parler de l'état de nature, en vérité, il parle d'un homme qui est déjà entré dans la société et qu'une certaine politique n'a pas corrigé, au fond. Alors que le système de Rousseau reposerait sur le retour ou la résurgence ou l'exhumation d'une vertu qui aurait été enfoui avec l'entrée en société, Pierre Vignon.
Oui. Pour Rousseau, l'état de nature de Hobbes est déjà un état social. Et Rousseau essaye de penser un état de nature. Donc, pour lui, c'est un état dans lequel l'homme n'a subi aucune influence d'un autre homme. Et donc, il conçoit l'homme dans l'état de nature comme vivant isolé, état d'ailleurs dont il dit bien qu'il a pu exister historiquement ou pas. Et pour lui, effectivement, oui, l'homme dans l'état de nature est bon, au sens où il ne fait pas le mal volontairement. Et effectivement, dans l'état de nature à proprement parler, l'homme est satisfait, puisqu'il il trouve facilement de quoi satisfaire ses besoins, qui sont des besoins simples. Par contre, d'une certaine façon, pour Rousseau aussi, c'est lorsque la situation devient insupportable que les hommes contractent, hein, et décident de renoncer à leur droit naturel et d'entrer dans une société civile. Et alors, lui, il règle de façon très différente aussi notre problème, puisque pour Rousseau, ce qui va être important, c'est que dans la société civile, chacun va participer à l'élaboration de la loi qui va être comprise comme étant l'expression de la volonté générale. Donc, le système est beaucoup plus démocratique que celui de Hobbes. Mais, par contre, l'individu va peut-être surtout devoir trouver son devoir, d'une certaine manière, dans la politique.
Son bonheur, vous
son bonheur, oui, pardon.
Oui, oui, mais le lapsus est intéressant, justement.
Oui,
parce que c'est, il y a quelque chose de l'ordre du devoir d'être
tout
heureux. Allez-y, pardon, Pierre Vignon.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais par contre, effectivement, le citoyen n'aura guère de recours face à cette loi qui est comprise pratiquement comme sacrée, hein, puisqu'elle est comprise comme expression de la volonté générale. Hein. Et donc oui, d'une certaine façon, il devra trouver son bonheur, s'il veut être heureux, dans cette participation à l'élaboration de la loi.
En somme, ce que Hobbes permet de penser, si je vous suis, c'est que Hobbes construit un système où, en apparence, la liberté est sacrifiée sur l'étal de la sécurité. Voilà. On est en sécurité et on ne peut se révolter que si l'État manque à sa tâche de garantir la sécurité des individus. Mais de liberté, finalement, il n'y en a plus. Mais paradoxalement, cette absence de liberté, entre guillemets, permet à chacun égoïstement de se faire son petit bonheur dans son coin. Chez Rousseau, le bonheur est inséparable de la participation à l'activité publique. De sorte qu'il y aurait chez Rousseau quelque chose peut-être d'encore plus coercitif que chez Hobbes, encore plus contraignant, qui serait la nécessité de chercher son bonheur dans une forme d'unanimité avec les autres, hein, Pierre Vignon.
Oui, oui, c'est exactement cela. Et c'est pourquoi les deux auteurs sont tout à fait passionnants. Et d'une certaine façon, l'évolution des sociétés a pris un chemin qui n'est ni tout à fait celui de l'un, ni tout à fait celui de l'autre. Hobbes pourrait paraître effectivement moins moderne, mais peut-être l'est-il plus dans cette possibilité du recherche d'un bonheur individuel. Rousseau est le plus démocrate, et finalement, les penseurs de la démocratie ne sont pas si nombreux que cela avant la Révolution française. Mais effectivement, oui, on peut craindre que Rousseau préfigure aussi des régimes beaucoup plus inquiétants, plus totalitaires, avec cette critique qu'on trouve chez lui un petit peu, d'ailleurs, de la propriété privée aussi. Et puis, cet unanimisme, cette idée d'une démocratie qui ne peut être que directe, d'une certaine façon.
Alors, il faut renvoyer la critique de la propriété privée au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, dans lequel, d'ailleurs, il parle de Hobbes aussi, hein, Rousseau, moment où il décrit celui qui a posé un enclos en disant « c'est à moi ». Un grand texte anarchiste de Rousseau, finalement, hostile à la propriété privée au début de la seconde partie. Pierre Vignon, comment justifiez-vous, au terme de ces considérations, finalement une transition, un passage, quelque chose qui légitime le passage à une deuxième partie, à un propos qu'on infléchit, à une autre façon d'envisager la question?
Eh bien, justement, Rousseau, peut-être, alors, puisqu'on a terminé là-dessus pour l'instant, permet de voir qu'il peut être peut-être dangereux d'attendre trop de la politique, vouloir honorer une obligation aussi incertaine et complexe que celle de faire le bonheur des citoyens pourrait justement, effectivement, peut-être mettre en danger le respect des libertés des citoyens.
moi je te dis quitte le pouvoir. Perdre le temps depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourrais avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élevé. Mais tu t'es accroché, aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Les nouveaux chemins de la connaissance sont au CDI du lycée Robert Doisneau aujourd'hui pour parler de la politique. La politique doit-elle faire le bonheur des citoyens? C'est le premier sujet d'une semaine tout entière consacrée au bac philo. Et Pierre Vignan, qui est notre invité aujourd'hui. Pierre Vignan, qui enseigne la philosophie au lycée Charlie Chaplin de Décines, juste à côté, pas loin, en compagnie, tout près, en compagnie de trois de ses élèves autour de cette table, et Adèle Van Rett, justement Adèle, qui voulait poser quelques questions aux élèves à la lumière de ce que Pierre Vignan vient de nous dire. On était dans la première partie, on est arrivé à la fin de la première partie du sujet.
Oui, ou plus exactement, je crois que c'est les élèves eux-mêmes qui avaient certaines questions à poser, notamment Charlotte Fayard, quand au début de l'émission, vous aviez dit que oui, la politique doit faire le bonheur des citoyens, mais que ça pouvait poser un problème, puisque si la politique imposait le bonheur, alors est-ce qu'on pouvait encore parler de bonheur à échelle individuelle? Et c'est exactement ce qu'on vient de dire, et ce qu'on va dire peut-être plus précisément dans la seconde partie. Alors vous aviez pris, Charlotte Fayard, l'exemple de la dictature. Pour exprimer ça, peut-être vous pouvez développer l'idée que vous aviez au début, puisqu'on est en plein dedans finalement. Vous voyez qu'elle est finalement très pertinente. Allez-y.
Bah, je pense que sans le vouloir, les politiciens, ils imposent en fait leur bonheur à eux au reste des citoyens. Donc on ne peut pas parler de bonheur, parler de bonheur de la société, vu que c'est leur bonheur à eux au final.
Donc là, ce serait l'intérêt personnel des hommes qui sont au pouvoir.
Voilà.
En fait, c'est ça
voilà.
Qui primerait. Je crois que c'est proche de ce que vous vouliez dire aussi, Romain Philippe.
Voilà, moi je suis Charlotte dans l'idée qu'un politicien, c'est un individu comme les individus qui cherchent à diriger par sa politique. Et que, par conséquent, lui aussi a sa vision personnelle du bonheur qui va être imposée de manière plus ou moins directe, suivant le type de politique, aux gens qui dirigent, qui sont dirigés.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fini la première partie sur cette opposition entre bonheur individuel et bonheur collectif. Et là, on voit, en tout cas de la part de Charlotte Fayard et de Romain Philippe, que l'opposition, elle est entre bonheur individuel, mais de la part de ceux qui peuvent imposer le bonheur aux autres, et donc de la part de ceux qui ont le pouvoir.
Est-ce que ça n'est pas le lieu, Pierre Vignan, ici, de faire une autre opposition entre dictature et démocratie, tout simplement, c'est-à-dire entre le fait que, dans un régime dictatorial, on impose quelque chose et on impose un contenu, une morale, une vision du monde, peut-être plus que dans une démocratie où, après tout, on garantit peut-être la préservation de l'égoïsme individuel et du petit bonheur de chacun, Pierre Vignan, je ne sais pas.
Oui, ça me paraît tout à fait important et vrai. Et bien sûr, on pourrait citer bien des exemples de politiques qui, voulant faire le bonheur des citoyens, finalement, à priver les citoyens de leur liberté sans parvenir à leur apporter le bonheur. On pourrait peut-être aussi, par contre, s'interroger tout de même sur le fait que la démocratie n'empêche peut-être pas toujours nécessairement une certaine forme de politique, peut-être particulièrement insidieuse, de vouloir nous imposer une certaine forme de bonheur uniforme et réducteur. On pourrait se demander, par exemple, s'il n'existe pas dans nos grandes démocraties occidentales une sorte de politique qui vise à nous laisser penser qu'on ne peut trouver le bonheur que dans la consommation, par exemple. ou de façon un peu plus large, que le bonheur se réduit à notre bien-être matériel. Et finalement, cette politique, qui est peut-être celle des grandes entreprises multinationales, à laquelle peut-être parfois, trop souvent, nos gouvernements se soumettent, peut-être qu'elle cherche à faire notre bonheur sans même qu'on en ait tout à fait conscience, et un bonheur finalement assez réducteur. Et bien qu'on ait des libertés publiques tout à fait nombreuses, sans s'en rendre compte, cette forme de bonheur pourrait aussi appauvrir notre liberté.
Et alors, ce qui est important dans ce que vous dites également, indépendamment du contenu même de ce que vous dites, Pierre Vignan, qui est important, qui montre que la philosophie, justement, est une activité subversive, en un sens, en tout cas, est une activité d'insoumis. Ce qui est important aussi, c'est de montrer que dans une dissertation, il y a la place. Une dissertation peut être également le lieu d'une prise de position. On est en droit d'avoir, dans la mesure où on est capable de l'argumenter, on est en droit d'avoir une opinion et de la faire valoir dans une dissertation. Pierre Vignan.
Oui, tout à fait.
On n'est pas obligé de se bâillonner quand on fait une dissertation.
On n'est pas obligé de se bâillonner. Il n'y a pas de réponse finale attendue. Il n'y a pas même en terminale de référence attendue. Et on apprécie des devoirs qui progressent vers une réponse qui est assumée et qui peut être originale et qui n'est pas nécessairement modérée. Oui.
Mais de façon générale, juste avant d'entrer dans la deuxième partie quand même, si on a, parce que c'est important aussi, un élève, une copie terminale ne sera pas évaluée à la teneur de ce qu'elle raconte, mais à la façon dont elle le dit. Si un professeur est de bonne foi, mettons qu'il soit particulièrement conservateur pour lui-même et qu'il tombe sur une copie révolutionnaire, peu importe, s'il est de bonne foi et s'il observe le caractère argumenté de la copie, normalement, la teneur de la copie ne doit pas le dissuader de mettre la bonne note que mériterait l'élève.
Bah, elle ne le doit pas et je pense que ce ne sera pas le cas. Voilà. Je pense qu'il sera tellement satisfait de voir un élève qui a vraiment des convictions, qui a vraiment une pensée, à condition bien sûr qu'il confronte cette pensée à d'autres. Je suis à peu près certain qu'il sera tout à fait satisfait et que la note sera bonne.
On est dans la deuxième partie, Pierre Vignan. Comment est-ce que vous voulez l'argumenter? Il nous reste malheureusement moins de temps pour la traiter que la première. Mais
on a déjà commencé. Ouais. Effectivement, on peut se demander si, même si les individus aspirent au bonheur, ça ne veut pas forcément dire qu'ils attendent de la politique qu'elle fasse leur bonheur. Et si ça se trouve, eux-mêmes, du reste, poursuivent toutes sortes d'objectifs variés dont la réalisation les rendra heureux, mais sans poursuivre le bonheur en lui-même. Et puis, alors effectivement, comme on l'a dit, si on demande à la politique de faire le bonheur des citoyens, elle risque de vouloir aller vers une forme de bonheur uniforme. Et à ce moment-là... Le danger, effectivement, c'est que les citoyens soient même finalement sommés de se prétendre heureux, ce qui, évidemment, n'est pas le bonheur et en chemin, ils auront perdu la liberté.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, il y a un texte de Kant qui explique que le bonheur n'est pas l'affaire de l'État? C'est pas son problème. Parce qu'il y a des bonheurs individuels, parce que chaque bonheur est empirique, ce qu'on disait tout à l'heure. Et que, donc, dit Kant, personne ne peut me contraindre à être heureux d'une certaine manière. En revanche, l'État peut préserver le désir que j'ai d'être heureux de cette manière-là, mais l'État n'est pas en droit, s'il est en un sens démocratique, de me proposer un autre bonheur que celui auquel j'aspire. Est-ce qu'un texte comme celui-là ne fait pas de l'égoïsme individuel et de l'individualisme, dont on peut par ailleurs repérer les défauts et les vices, l'une des meilleures armes finalement pour la démocratie, c'est-à-dire l'un des meilleurs remèdes à la tentation totalitaire d'imposer le bonheur aux autres?
Oui, on peut le penser. Et il est vrai que Kant n'attend pas de la politique qu'elle fasse le bonheur des citoyens,
parce qu'il a une définition assez pauvre du bonheur qu'il identifie lui au bien-être, Pierre Vignan.
Oui, et en même temps, pour lui, le bonheur est un idéal de l'imagination, donc c'est pas quelque chose qu'on puisse faire d'une certaine façon hein, pour les autres. L'individu lui-même n'est même pas certain de parvenir à son bonheur par ses propres efforts. Hein, il est certain de parvenir à l'estime raisonnable de soi, mais pas au bonheur. Donc, oui. D'un autre côté, pour Kant, celui qui est en charge de la politique doit postuler qu'il y a un certain progrès, même si c'est quelque chose dont on ne peut pas être certain, et doit essayer de proposer un dessein pour la société, de façon à ordonner toutes les décisions. Hein, et Kant s'était forcé lui-même de faire des propositions qui pourraient favoriser le progrès, et on sait qu'il était attaché à ce que finalement... Le monde aille vers la paix, qu'un droit international se constitue, des choses de ce type. Et donc, on peut penser que le bonheur ne doit pas être totalement absent des préoccupations de la politique chez Kant.
Par ailleurs est l'objet de votre deuxième partie, hein, Pierre Vignan, hein, que le bonheur ne peut pas être complètement détaché des préoccupations de la politique.
Oui, ou plus encore de la troisième, peut-être,
ouais.
Puisque dans la deuxième, il s'agit surtout de montrer qu'il est dangereux de vouloir faire le bonheur des citoyens. Il y a un autre danger, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, qui est peut-être que les citoyens obtiennent le bonheur, mais un bonheur qui soit au prix non seulement de leur liberté, mais peut-être, d'ailleurs, ça va sans doute ensemble, de leur humanité. On peut se demander si bien des citoyens allemands n'ont pas été heureux pendant la période nazie, si la politique nazie n'a pas pu rendre heureux de nombreux citoyens. Mais
à quel titre ?
Eh bien, puisqu'ils étaient rassurés sur leur identité, parce que la politique nazie pouvait sembler les mobiliser d'une façon beaucoup plus pleine que la démocratie libérale, donc à différents titres. Et du reste, est-ce que Hitler aurait pu avoir cette carrière hein, qu'il a eue si bien des citoyens allemands ne s'étaient pas retrouvés dans cette politique ?
Et alors, dans ce contexte donc, où vous faites valoir dans la deuxième partie que le bonheur est liberticide ou que le bonheur à l'échelle collective et liberticide, quel serait pour vous, alors on a vu un exemple historique, philosophiquement, quelle référence par exemple pourrait s'imposer, sachant évidemment qu'il n'y a pas d'étape obligée dans les références philosophiques, l'essentiel c'est d'avoir une argumentation serrée. Pierre Vignan.
Oh ben on peut penser à bien des références. Hein. Pour ce qui est, par exemple, on a évoqué éventuellement... ce qui pouvait y avoir de contraire à la liberté et ce qui pouvait aller dans le sens d'un bonheur imposé d'une façon dont on n'a même pas vraiment conscience dans nos propres sociétés démocratiques. On pourrait penser à l'œuvre de Jacques Ellul qui considère que finalement la technique décide pour nous la technique nous conduit vers des systèmes politiques plus centralisés et qui finalement transforme les citoyens en instruments du système technique. On peut penser aussi, bien sûr, au marxisme et à ce qui s'est passé dans le socialisme réel. Pour Marx, finalement, est-ce que la politique ne devait pas faire le bonheur des citoyens ? Est-ce que le citoyen ne devait pas trouver d'abord son bonheur dans le fait de participer au progrès historique et dans le fait d'accélérer le cours de l'histoire ? Et de faire advenir finalement cette société communiste dans laquelle finalement les citoyens auraient trouvé un bonheur, un épanouissement complet. À ce moment-là, du reste, au moment où la politique s'abolit pour Marx, puisque une fois qu'il n'y aura plus d'instruments de domination, une fois qu'il n'y aura plus d'opposition de classe, finalement, la politique elle-même disparaît d'une certaine façon, puisqu'il n'y a plus lieu de gouverner les hommes, mais seulement d'administrer les choses. Et on sait finalement ce qui s'est produit dans le socialisme réel, ce n'est pas la disparition de l'État et des instruments de domination, mais l'apparition d'un État totalitaire dans lequel peut-être les citoyens ont fini par perdre et leur liberté et toute satisfaction.
Alors, c'est passionnant de vous entendre. Le temps presse malheureusement, mais juste un point avant d'aller vers la troisième partie avec vous, Pierre Vignon. Est-ce que ce que vous dites implicitement ne suppose pas qu'au fond, s'il est dangereux pour la politique de prendre en charge un bonheur collectif, ça n'est pas que à cause du fait que finalement l'homme n'est pas à la hauteur des gens qui lui veulent du bien?
Oui, c'est possible. Il est vrai qu'on trouve chez Rousseau et chez Marx une vision très optimiste de l'homme et que d'autres ne partagent pas, que je crois que je ne partage pas moi-même. Oui.
Comment on va vers la troisième partie puisqu'on s'y achemine, Pierre Vignon, et que vous avez conçu ce devoir en trois temps?
Eh bien, d'autres deuxièmes parties, finalement, a longuement montré les dangers d'une politique à laquelle on imposerait le devoir de faire le bonheur, ce qui pourrait peut-être nous amener à l'idée que la politique ne doit absolument pas se préoccuper du bonheur des citoyens. Mais justement, je rebondirais sur cette idée en me demandant si, malgré tout, ce ne doit pas être une des préoccupations tout de même de la politique, et si la politique ne peut pas quelque chose tout de même par rapport à cette importante question du bonheur des citoyens.
Mais à quelles conditions et comment établissez-vous finalement les conditions ou les restrictions de ce but, de cet eudémonisme politique qui consisterait donc à faire le bonheur des citoyens? Comment établissez-vous ces conditions? Comment les fixez-vous et sous quelle réserve finalement la politique doit quand même prendre en charge le bonheur des citoyens?
Ben, je crois qu'elle ne doit pas se donner le bonheur des citoyens comme fin première. Peut-être ce bonheur doit-il plutôt être une sorte d'horizon que pourrait viser la politique. Et il me semble que la politique doit davantage travailler aux conditions qui vont permettre finalement à chaque citoyen de chercher son bonheur par lui-même. Il me semble que on peut attendre de la politique qu'elle offre peut-être aux citoyens les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent rechercher son bonheur. Et d'ailleurs, s'ils le souhaitent, car on peut même imaginer que certains citoyens ne souhaitent pas être heureux.
Contrairement à ce que dit Pascal, tous les hommes ne souhaitent pas être heureux, ne désirent pas être heureux.
Oui, on peut le penser. Hein, peut-être que, est-ce que celui qui veut sacrifier sa vie à une cause ou à d'autres individus, est-ce qu'il recherche véritablement son bonheur? La question peut se poser.
Et est-ce que ça n'est pas le lieu ici de redéfinir le bonheur finalement puisque depuis le début, on oscille entre une conception totalitaire du bonheur qui serait le bonheur pour tous, le même bonheur pour tous, et une conception très minimaliste du bonheur qui serait le bonheur de l'idéal consommateur, d'un bonheur, d'un désir satisfait finalement, mais d'un désir qui serait produit par ceux qui le satisfont ensuite, c'est-à-dire d'un désir qu'on aurait suscité chez les individus avant de proposer ensuite aux individus de librement l'assouvir, quitte à produire ce que Romain Gary appelle des sociétés de provocation, où on présente aux gens des objets dont ils ont le désir tout en ne leur donnant pas les moyens de les acquérir. Est-ce qu'il ne s'agit pas ici de trouver finalement une définition médiane du bonheur entre un bonheur collectif qui serait la société sans classe et qui en lui-même donc serait dangereux, et un bonheur individuel qui serait le dernier iPhone?
Oui, on a moins parlé que je l'avais peut-être pensé initialement dans le déroulement, mais peut-être ce qui est important effectivement, c'est de dire que la politique peut garantir aux citoyens un certain nombre de droits et que ces droits peuvent justement favoriser le bonheur. Si le citoyen peut avoir des convictions et les exprimer, s'il peut disposer d'une liberté de culte, d'une liberté religieuse, s'il peut effectivement avoir accès à des libertés diverses également. Bon, tout ceci me paraît pouvoir favoriser le bonheur du citoyen et me semble effectivement aller vers une vision du bonheur qui n'est ni uniforme, ni réduite à la satisfaction d'une pulsion de consommation.
Est-ce que ça n'est pas une vision du bonheur qui finalement n'est pas une vision d'un bonheur particulier ?
Oui.
Puisque oui, le bonheur qu'on ménage est un bonheur.
On pourrait parler d'une vision ouverte du bonheur, peut-être. Il n'est pas certain que chaque citoyen trouve son bonheur à travers les mêmes disciplines, les mêmes domaines. Il peut être bon de laisser la possibilité aux citoyens de chercher et de trouver leur bonheur dans l'implication politique ou davantage dans le domaine artistique. On pourrait aller vers peut-être des idées de ce type, comme peut-être en défend Popper, hein, d'une société ouverte qui n'impose pas un bonheur préfabriqué, mais finalement offre bien des possibilités aux citoyens de construire leur existence. Car finalement, c'est peut-être là aussi la réponse. Ce qui est important, c'est que la politique puisse laisser chaque individu construire son existence librement et l'aider peut-être dans ce projet d'existence, l'aider à trouver les moyens de réaliser ce projet. Et si l'individu peut avoir suffisamment confiance en lui-même et dans les possibilités que lui donne la société de réaliser les objectifs qu'il se donne, peut-être trouvera-t-il le bonheur.
Alors, le texte auquel vous faites référence de Karl Popper, « La société ouverte et ses ennemis », est un texte en deux temps, où il commence d'abord par s'en prendre à la conception justement totalitaire d'un bonheur tel que Platon la formule aux yeux de Popper. Dans la République, où le bonheur, il n'y a plus de propriété, les parents sont privés de leurs enfants, plus personne ne possède rien, les choses sont allouées à chacun en fonction du besoin qu'ils en ont, mais provisoirement. Donc c'est un texte, alors là pour le coup on a une vision antédiluvienne du communisme, d'une société sans classe, mais qui est un univers totalitaire, auquel Popper s'en prend, au profit dans un deuxième temps d'une conception alors vraiment de libéralo-procédurale de la démocratie, une démocratie bontain qui finalement ressemble d'assez près à la démocratie dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous diriez, Pierre Vignan, que le régime où nous nous trouvons est en un sens le moins pire de tous les autres, le moins pire des régimes politiques ?
Le moins pire, je serais très tenté de le dire. Mais ce qui serait dangereux peut-être, c'est de croire qu'il n'est pas perfectible. Ou si on s'écarte un peu, si on pense en termes davantage de mondialisation, le danger peut-être serait de croire trop facilement que nécessairement ce modèle va triompher.
Alors, on arrive au terme de cette dissertation, Pierre Vignan. Il faut jouer le jeu de l'horaire. Hein, les appariteurs vous arrachent vos copies si vous n'avez pas fini, etc. Juste quand même.
Ils sont cruels,
c'est terrible. Avec toujours une injustice, évidemment, pour ceux qui sont au milieu des rangées, à qui on arrache la copie un peu plus tard que les autres. Mais bon, c'est quand même un concours de la République et égalitaire dans la mesure du possible. Un examen de la République. Pierre Vignan, juste comment concluez-vous ? Voilà. En peu de mots avant de laisser les élèves réagir.
Je dirais que la politique ne doit pas chercher à faire à tout prix et par tous les moyens le bonheur des citoyens, mais elle doit poursuivre des objectifs, un dessein qui soit juste, en utilisant des moyens aussi justes et pacifiques que possible. De cette façon, elle aidera, autant qu'elle en a le pouvoir, les citoyens et même les êtres humains à construire l'existence de leur choix et favorisera ainsi leur bonheur.
CQFD, peut-être Adèle, on fait réagir un peu les élèves de Pierre Vignan
oui,
sur
donc
ce
là,
sujet.
On voit, dans cette conclusion, vous définissez le bonheur comme le fait de pouvoir choisir une existence selon sa propre liberté, de choisir la forme et le contenu qu'on donne à son existence. Donc on voit que là, vous concluez finalement sur la notion de bonheur.
Alors, avec l'idée tout de même que la politique peut et doit peut-être aider autant qu'elle
voilà,
le peut.
Voilà, et là c'est là comme ça qu'on fait le lien avec la politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand j'ai donné la parole aux élèves, vous étiez tout de suite parti sur la notion de politique. Et là on voit que finalement, la notion de bonheur qui est aussi présente dans le sujet est celle sur laquelle vous allez en partie conclure. Alors comment est-ce que vous avez reçu à ce développement que vient de faire votre professeur ? Est-ce que vous avez l'impression que ça confirme ce que vous pensiez, votre intuition première ? Ou au contraire, est-ce que vous voyez dans quel sens est-ce que ça vous a fait voir un autre aspect du sujet que vous n'aviez pas vu ?
Sachant que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec votre prof.
Tout à fait, de le dire, c'est le moment. Maxime Etienne.
Si c'était le devoir.
Pour moi, la dissertation de mon professeur m'a permis de voir que le bonheur n'est pas universel. Mm-hmm. Et chacun trouve lui-même son propre bonheur. Pour moi, je pense plus que le bonheur aujourd'hui, c'est avoir une famille, une maison. Enfin, c'est... Pour beaucoup, le bonheur, c'est matériel. Mmh. Et donc, ça, il passe par la politique qui va conduire une forme de société de consommation afin que la population ait accès à une maison, bah, voilà, à trouver une famille, tout ça. Donc, voilà.
Donc la politique pourrait conduire au bonheur matériel, ouais, et doit répondre aux besoins matériels de l'individu.
Il faut qu'elle offre tous les chemins pour que l'individu trouve son bonheur.
Charlotte Fayard.
Je suis d'accord avec Maxime sur le fait que la plupart des gens recherchent le bonheur dans les biens de consommation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. Personnellement, le bonheur, je le trouve autre part. Enfin, c'est pas dans les biens matériels qu'on trouve le bonheur, et je pense pas que la politique puisse répondre à tous les, à tous les besoins qu'on a. Et pour moi, elle répond pas aux besoins qu'on attend vraiment. Quoi.
Donc vous seriez plus nuancé. Romain Philippe, en quelques mots.
En quelques mots, pour moi, le bonheur, je sais pas si c'est juste d'avoir une définition aussi claire, mais pour moi, le bonheur se définit en deux temps. Tout d'abord, le bonheur...
comme la politique.
D'être, oui, tout à fait. Le bonheur, tout est en deux temps. Le bonheur, d'abord, de satisfaire son humanité, puisqu'au milieu des animaux, on est quand même le seul animal à disposer de la parole et de pouvoir dialoguer. Et dans un second temps, le bonheur matériel, donc qu'on a traité. Et je pense que le rôle de la politique avec le bonheur s'arrête à satisfaire le besoin humain. Et le besoin matériel, lui, se satisfait... personnellement, chaque individu choisit où sera son bonheur.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.
Et merci à tous. Voilà, je rappelle, Pierre Vignan, que vous enseignez la philosophie en terminale au lycée Charlie Chaplin de Décines et que la question du jour était: la politique doit-elle faire le bonheur des citoyens?
Alors on aurait pu traiter ce sujet tout à fait différemment, avec d'autres références, je signale, puisqu'on les a un peu évoquées, Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, Kant, Théorie et pratique, toutes ces références on les trouve en ligne sur notre site internet, et Romain Gary dans Chien blanc qui parle d'une société de provocation, c'est remarquable, on vous donnera les références exactes en ligne. On se retrouve demain de 10h à 11h, comme tous les jours du lundi au vendredi, pour la suite de la première des deux semaines que Les Nouveaux Chemins consacrent au bac philo. En compagnie demain de Jean-Pierre Dramizino pour creuser la question de savoir si toutes les cultures se valent. On se retrouve aussi, je vous l'ai dit, naturellement, sur Internet à toute heure du jour et de la nuit, où vous attendent bibliographie, téléchargement et plans détaillés de vos professeurs, particulièrement utiles aux lycéens à l'heure d'entamer les révisions. Morto per la libertà.
10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.